Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes donc en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin, juste à côté de la place Jean Jaurès, hein, au 13 rue Victor Hugo. Et comme chaque vendredi, vous êtes les bienvenus pour à la fois nous écouter, bien sûr, et également assister à chacune de nos émissions, à chacun de nos enregistrements. Alors aujourd'hui en studio, petite équipe restreinte, hein, je suis donc Lucien bénévole à Micro Rebelle. Et je suis avec Luc.
Salut à toutes et à tous.
Donc Luc est salarié de notre association. Alors comme chaque vendredi, on va essayer de regarder, analyser, discuter, échanger autour de l'actualité sociale et politique dans le bassin minier et au-delà. Et effectivement, chaque semaine, et cette semaine en particulier, cette actualité, elle est particulièrement riche. On va également, dans le cadre de cette émission, vous proposer notre agenda culturel et social, une petite revue de presse qui nous permet également de balayer des actualités locales et puis des reportages. Je vous rappelle que chacune de nos émissions Micro Rebelle Hebdo est diffusée et rediffusée par des radios associatives membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, que nous remercions, hein, je pense en particulier à Radio PFM 99.9 dans la Rajoie, et à Radio Plus 104.3 à Douvrin. Sans tarder, on va démarrer par notre agenda social et culturel, en commençant par le samedi 14 septembre. Ça se passe à Lens. Il y a une manifestation des Gilets jaunes. Le rendez-vous est au rond-point Bollard, ou au parking du stade Bollard plutôt, à partir de 14h30. Je n'en dis pas plus parce que tout à l'heure, on aura l'occasion d'avoir un tout petit reportage concernant cette manifestation des Gilets jaunes.
Dans le cadre du centenaire de l'arrivée massive des travailleurs polonais en France, la municipalité de Calonne-Ricouart a invité Jacques Kmiesiak, historien de l'immigration, à animer une conférence sur le thème « Les Polonais du Nord, un exemple d'intégration réussie, mythe ou réalité ». Elle se déroulera le samedi 14 septembre 2019 à 17h à la salle Larry aux étangs de Kenehem à Calonne-Ricouart. À cette occasion, Louis Kluska, dont les grands-parents et la mère qui habitaient la Cité 5 ont été renvoyés en Pologne en 1935, témoignera sur les circonstances de ce départ contraint, vécu de façon dramatique par les intéressés.
Le lundi 16 septembre, c'est la reprise des ciné-débats à Arras. Alors c'était le Ciné Movida et maintenant c'est le Megarama. Il y a une reprise du Ciné Movida par la chaîne Megarama. Et donc c'est notre ami Paul Masson qui anime ces ciné-débats. Donc lundi 16 septembre à 20h à Arras, le film qui nous est proposé, c'est en fait un film d'animation, hein, Les Hirondelles de Kaboul, réalisé par Zabou Brightman et Eléa Gob-Mevlek.
Vendredi 20 septembre, Rentrée en résistance. C'est le titre qu'on a donné à notre prochaine émission, qui se déroulera comme d'habitude de 18h à 19h. Mais on essaiera d'inviter le public et elle se déroulera avec des membres du lieu autogéré de Liévin. On lance cette émission sur l'appel à une rentrée en résistance pour une mobilisation commune et unitaire. L'urgence sociale et climatique nécessite de rompre avec le système capitaliste. Voilà, donc c'est une émission de Micro Rebelle en direct et en public qui se déroulera de 18h à 19h. Essayez d'arriver un quart d'heure avant le début de l'émission et donc avant la fermeture des portes du studio.
Le lendemain, samedi 21 septembre, la proposition c'est de se retrouver au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, pour une réflexion et un partage de pratiques autour de l'autogestion. Alors il y a déjà eu deux séances, hein, le 4 mai à Mont-Saint-Barrel et le 25 mai à Lille. Et ce sera la troisième séance qui est tout à fait ouverte, hein, comme beaucoup de collectifs qui ont choisi de fonctionner de façon collégiale, horizontale, autogérée. Nous interrogeons nos pratiques, la place de chacune et chacun, la circulation de l'information, le partage des responsabilités, le rapport individu-collectif, l'accueil de nouveaux, etc., etc. Pour nous, la gestion directe de l'outil de travail, le pilotage de l'entreprise par les salariés eux-mêmes, eux et elles-mêmes, contribuent à la réappropriation de leurs activités par les femmes et les hommes qui les mettent en œuvre. À l'opposé du capitalisme qui dépossède les gens de leur savoir-faire et de la conduite de leurs activités, l'autogestion s'inscrit dans la mise en œuvre d'un nouveau système centré sur les gens avec d'autres rapports sociaux, d'autres rapports de production. Comme d'autres de plus en plus nombreux, nous nous interrogeons sur l'utopie autogestionnaire et sa mise en pratique, les limites du cadre imposé par la société de marché, les contradictions avec lesquelles il faut faire, les nouveaux rapports qu'il faut inventer, bien loin de ceux auxquels nous sommes préparés. C'est donc l'ensemble de ces thématiques, hein, qu'il nous est proposé de discuter, d'interroger, d'analyser le samedi 21 septembre au LAG de 10h à 17h. Le midi, prévoyez une auberge espagnole.
Samedi 21 septembre, c'est aussi un week-end international de mobilisation pour le climat et il y aura notamment une mobilisation à Arras. Le rendez-vous est donné à 14h30 devant la gare.
Toujours le samedi 21 septembre et également le lendemain, dimanche 22 septembre, c'est la réouverture de la Maison des Projets à Lens, hein, juste en bas du Louvre-Lens. Et c'est l'association Porte-Mine qui investit la Maison des Projets et qui fête cette réouverture durant deux jours avec de nombreuses initiatives festives, culturelles, sociales et solidaires. Alors je vous décris le programme. Le samedi 21 septembre à 16h, visite artistique de la Maison des Projets avec la compagnie Le Collectif. À 17h, atelier d'initiation au cirque. À 18h30, nouvelle visite artistique. À 19h, concert de violon nomade. À 20h, de nouveau une visite artistique et le cirque de la Maison des Projets. À 21h, concert de Asa Iviata. Et à 22h30, DJs. Le lendemain, dimanche 22 septembre, à 15h, visite artistique et cirque de la Maison des Projets, avec toujours la compagnie Le Collectif. À 16h, atelier d'initiation cirque. 16h30, spectacle clownesque, drôle d'impression, avec la compagnie Dédale de Clown. À 18h, visite artistique et cirque de la Maison des Projets. À 18h30, projection du film Les Liens Invisibles, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice. Et à 19h45, concert de la Corde Raide. C'est donc samedi 21 et dimanche 22 septembre, la réouverture de la Maison des Projets avec l'association Porte-Mine. C'est donc toute la journée, le samedi à partir de 16h, pardon, c'est l'après-midi, le samedi à partir de 16h et le dimanche à partir de 15h.
Dimanche 22 septembre, enfin, fête de l'agriculture paysanne. Le rendez-vous de l'agriculture paysanne, c'est à Vingles de 10h à 18h avec la participation de nombreux collectifs militants et associatifs, les AMAP, Initiatives Paysannes, la Confédération Paysanne. Parmi les temps forts, il y aura des débats et des conférences, notamment une projection débat agriculture et climat organisée par le collectif Ensemble pour le climat, une autre conférence l'autoconsommation photovoltaïque pour le milieu agricole, c'est proposé par Enercop, un atelier découverte le lait et ses dérives par badinage artistique, une conférence sur l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne peut-elle nourrir le monde avec Gérard Choplin, Nicolas Giraud, Claire Totti. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site de l'Aglo Lens Liévin, www.aglo-lensliévin.fr, à l'entrée Fête Paysanne. Donc c'est à Vingles, parc Marcel Cabidu, le 22 septembre.
Eh bien donc ça c'était notre agenda social et culturel pour les tout prochains jours. Et on voudrait néanmoins, dans le cadre de cet agenda, vous parler d'une initiative, la rentrée du planning familial. Donc c'est une initiative qui se tient un peu plus loin dans le temps. Alors on a souhaité demander à Louise, hein, une des animatrices du planning familial du Pas-de-Calais, de nous parler de cette rentrée du planning familial. On lui donne tout de suite la parole.
Dans l'agenda de ce mois de septembre, on peut d'ores et déjà noter que le dernier lundi de septembre, donc le 30, c'est la rentrée des adhérents et adhérentes au planning familial à Lens. On a la chance d'être avec Louise, qui fait partie du planning familial et qui est là pour nous toucher deux mots de cet événement. C'est quoi le planning familial ?
Oui, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Bon, alors, le planning familial, c'est une vieille association dans le Pas-de-Calais, ça date de 62, voilà, qui, une association féministe d'éducation populaire, voilà, qui se bat pour un certain nombre de droits, l'accès à la contraception, à l'avortement, la lutte contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes notamment. Et en fait, c'est une association donc, d'éducation populaire aussi, c'est-à-dire que on fait de l'orientation, de l'accueil, de l'écoute, mais aussi on mène tout et tout ensemble des actions pour sensibiliser les gens autour de nous. Et c'est le planning familial du Pas-de-Calais, j'insiste là-dessus, parce qu'on est basé à Lens, notre local est à Lens. Mais voilà, si vous habitez Arras, Bully-les-Mines, Béthune, ou même plus loin, sur le littoral, comme moi, vous pouvez quand même venir le 30 septembre pour cette soirée et adhérer à l'association. Voilà, elle est départementale.
Tu peux un peu présenter c'est quoi la rentrée des adhérentes et adhérentes du planning familial ?
La rentrée des adhérentes et adhérentes du planning, c'est en fait un rendez-vous de rentrée pour se retrouver après l'été, après les vacances pour certains, se retrouver, se rencontrer, puisqu'il y a toujours et régulièrement des nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes. Donc voilà, c'est un moment pour découvrir le planning pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc si voilà, vous n'êtes pas encore adhérent, mais que ça vous intéresse de connaître l'association, n'hésitez pas à venir. Et puis, c'est aussi un moment très convivial pour se projeter dans l'année sur les choses qu'on aimerait vivre ensemble dans l'année qui vient, on va dire année scolaire, puisqu'on se cale sur l'agenda de la rentrée. En fait, ça fait partie de plusieurs temps forts ou ateliers qu'on met en place tout au long de l'année, les lundis. Voilà, on appelle ça les lundis du planning. Et on en fait donc toujours un en septembre pour la rentrée. Mais vraiment, ces temps-là sont ouverts à tout le monde. Et voilà, nous, l'enjeu, c'est de rencontrer des gens du territoire. Donc venez, n'hésitez pas.
Est-ce que vous avez déjà des idées de ce qui s'y fera ?
Alors bon, déjà en fait on vous accueille à partir de 18h, voilà, et on se laisse le temps de l'arrivée de chacun et de chacune jusque 18h30. À 18h30, on commence. Souvent on se fait un petit temps de jeu pour briser la glace, apprendre à se rencontrer un petit peu. Et puis après on appréhende ensemble ce qu'est le planning, on redécouvre ensemble ce que c'est. À chaque fois au travers d'un nouveau support ou d'un nouvel outil, hein, on a eu envie de mettre en avant cette année notre fonds de livres, BD, livres jeunesse qu'on a au planning. Donc on va s'inspirer de ce qu'on a dans la bibliothèque pour discuter des thématiques, des sujets, des luttes du planning.
Pour conclure, nous dire où se trouve le planning familial ?
Tout à fait. Alors il y a une maison des associations à Lens qui est dans le centre, en fait, qui est un petit peu cachée, mais pas très loin de la mairie. C'est au 45 rue François Gauthier. Et donc aujourd'hui vous êtes accueillis à partir de 18h et on prévoit de terminer à 20h30, et s'il y en a qui veulent continuer à manger, grignoter des petites choses et boire des coups avec nous, souvent ça dure un petit peu, mais voilà, c'est Maison des Associations à Lens, 45 rue François Gauthier.
Et donc ça se passe le lundi 30 septembre au planning familial. Merci Louise.
Merci Elsa, au plaisir de vous voir.
Bien, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais donc c'était Elsa, hein, qui est également salariée à Micro Rebelle avec Luc, qui échangeait avec Louise concernant cette rentrée du planning familial, donc le 30 septembre. Et bien dans l'agenda, à peu près à la même période, à peu près au même moment, hein, donc deux jours avant, le samedi 28 septembre, on vous proposera à Micro Rebelle notre assemblée générale mensuelle, hein, chaque dernier samedi du mois se tient l'Assemblée Générale de Micro Rebelle, qui est ouverte, hein, ouverte à tout nos auditrices et nos auditeurs. Alors Luc, je sais que tu as préparé un petit peu cette Assemblée Générale, bah, notamment avec Elsa.
Exactement.
De quoi on va parler ?
Alors on va parler de la rentrée sociale, on l'a annoncé tout à l'heure dans notre agenda. Il y a tout un tas de mobilisations sociales, de manifestations prévues. On parle beaucoup de convergence des luttes et pourtant la tendance est plutôt à l'éparpillement, si on peut le dire comme ça. Micro-rebelles, évidemment, on va s'attarder, se pencher et essayer de couvrir toute cette actualité. L'idée, c'est de savoir si les auditrices, les auditeurs, les bénévoles, les adhérents et adhérentes de Micro-Rebelles ont des idées pour savoir justement comment nous, on peut rendre compte de cette actualité, comment on peut s'inscrire dans les mobilisations sociales. Et puis, une seconde thématique qui nous trotte dans la tête et dont on a envie de parler avec d'autres, c'est l'échéance des élections municipales en 2020. Donc là, effectivement, on anticipe un peu. Mais on aimerait bien faire quelque chose, il y a un point qui nous intéresse plus particulièrement, c'est comment alimenter réflexion et action face aux dangers que représente l'extrême droite dans le bassin minier. On aimerait bien essayer d'organiser des émissions de radio à l'extérieur, hors les murs de nos studios, donc des conférences, des moments de convivialité et de réflexion collective sur justement ce qu'on peut faire pour limiter la casse, vu qu'elle a déjà commencé, et contrer l'extrême droite et sa montée dans le bassin minier plus particulièrement.
Un chouette programme en perspective, donc le samedi 28 septembre, hein, de 10h à 12h30. Notre assemblée générale ouverte, hein, c'est chaque dernier samedi du mois, c'est toujours au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. On va rester dans l'actualité, hein, au travers de notre rubrique actualité et revue de presse. Et bien justement, dans l'actualité cette semaine, c'est évidemment la réforme des retraites qui retient l'attention. Ce vendredi 13 septembre, sur France Info, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était invité et s'est exprimé concernant cette réforme des retraites et les mobilisations en cours. Donc typiquement, gros succès de la journée de grève à la RATP, ce vendredi 13 septembre. Belle mobilisation, quasiment 100% des conducteurs étaient en grève. Et donc Philippe Martinez a la question « Trouvez-vous juste que les conducteurs RATP aient un régime de faveur par rapport aux conducteurs du privé ?» Philippe Martinez donc répond que ce qui serait juste, c'est d'aligner les conducteurs du privé sur ceux de la RATP. Alors selon nous, c'est une voie tout à fait intéressante, une voie qu'il faut exiger, que tous les travailleurs et travailleuses aient les meilleures conditions de travail possibles en termes de salaire, de durée, de retraite, etc. Alors que le propos du gouvernement, c'est un nivellement par le bas, autrement dit, aligner tous ceux qu'ils présentent comme des privilégiés sur le statut de ceux qui ont le moins de droits. Et ça, c'est une lutte absolument qu'il faut mener. Alors concernant l'éparpillement des journées de grève, Philippe Martinez reconnaît donc sur France Info qu'il serait préférable d'unir toutes les forces possibles et de mener des actions convergentes. Là encore, ça nous semble aller dans le bon sens, et notamment dans le sens de la manifestation de samedi dernier à Lille, manifestation unitaire avec plusieurs syndicats et les Gilets jaunes, manifestation sur un appel rentrer en résistance que Luc a évoqué tout à l'heure. Alors par contre, là où nous sommes plus sceptiques concernant les réponses de Philippe Martinez à l'interview de France Info, c'est quand il dit que son objectif, c'est que dans le cadre de la négociation, le gouvernement Macron formule des propositions concernant les retraites, des propositions qui soient plus justes. Alors ça nous laisse effectivement sceptiques, car qui peut croire que ce gouvernement est disposé à mettre en place une réforme juste ? Toutes les réformes mises en place par le gouvernement vont dans le sens des intérêts des patrons contre l'intérêt des travailleuses et travailleurs. On peut parler des cheminots, de l'école, des transports, de la santé, etc., etc. À chaque fois, il s'agit de demander de plus en plus de sacrifices à celles et ceux qui en font déjà beaucoup, tout ça en évitant de toucher aux bénéfices faramineux qui sont versés aux actionnaires. Et on touche là au nœud de toutes ces réformes. Il s'agit ni plus ni moins d'enrichir les plus riches sur le dos des autres. Par conséquent, il est illusoire d'espérer que par la négociation, le gouvernement pourrait adopter des réformes socialement justes. Pour faire bouger ce gouvernement, c'est le rapport de force que toutes et tous, travailleuses, travailleurs, chômeurs, chômeuses, gilets jaunes, syndiqués, etc., c'est le rapport de force que nous serons capables ou non de créer par la mobilisation, par la lutte, par la grève, qui pourra faire reculer le pouvoir. Et ce rapport de force, le gouvernement Macron le craint. Le mouvement des Gilets jaunes a été une belle démonstration, qui n'est pas terminée, de ce que peuvent les gens quand ils et elles se mobilisent collectivement. Aujourd'hui, 72%, c'est-à-dire 3/4 des Françaises et des Français, sont convaincus que le gouvernement propose une mauvaise réforme. Il y a donc pour le pouvoir une vraie crainte concernant les réactions des Françaises et des Français. Par conséquent, il est important d'accentuer encore la pression par nos mobilisations et nos luttes. Alors dans l'actualité internationale, quelques mots concernant les élections en Israël le 17 septembre. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance par les États-Unis toujours de l'annexion du Golan peuvent donner des ailes à Benjamin Netanyahou. Ainsi, il a pu annoncer que s'il remportait l'élection du 17 septembre, Israël annexerait la vallée du Jourdain. C'est évidemment une promesse électorale qui vise à capter les voix de l'extrême droite israélienne. Annexer la vallée du Jourdain, c'est perdre encore 40% de la Cisjordanie. Benjamin Netanyahou inscrit la politique israélienne dans l'approfondissement de la colonisation illégale des territoires palestiniens, à rebours complet du respect du droit international. On attend, pour l'instant vainement, les réactions de la France et de l'Europe concernant cette annonce d'annexion de la vallée du Jourdain. Pour tout dire, on a connu dans d'autres circonstances, qui ne concernaient pas Israël, des réactions plus rapides et plus franches. Israël a toujours été un cas particulier, malheureusement pour le peuple palestinien. Alors, presse locale, maintenant, alors on va parler, comme très souvent, de la santé dans le bassin minier. Rappelons tout d'abord quelle est la situation générale en France. Premièrement, depuis le printemps, 240 SAU, hein, SAU c'est Service d'accueil et d'urgence, 240 SAU donc sont en grève. C'est une mobilisation qui s'est inscrite dans la durée et qui concerne aujourd'hui la moitié des services d'urgence. Deuxièmement, cette mobilisation panique le gouvernement qui a dû faire des annonces à l'origine attendues pour la mi-septembre. Troisièmement, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a ainsi annoncé un plan de 750 millions d'euros qui en fait se traduit par des coupes budgétaires ailleurs. Localement, cela fait plus de 6 mois que le service des urgences de Lens est en grève. L'avenir de l'Artois y revient cette semaine. Quelques extraits. Un drap blanc annonçant le service des urgences en grève par une inscription faite à la bombe de peinture. Quelques affiches avec des slogans ayant souffert de la météo, pas toujours estivale. Depuis le début de ce mouvement, dans les services des urgences, il y a près de 6 mois, la mobilisation ne s'étiole pas malgré des personnels qui restent à pied d'œuvre. Que ce soit les médecins ou les personnels de santé, même s'ils sont en grève avec le manque d'effectifs, ils sont réquisitionnés par la direction des ressources humaines, commence le docteur Alain-Éric Dubard, chef du pôle des urgences de Lens et Béthune. Et plus loin, l'avenir de l'Artois poursuit. Pour l'heure, il manque 10 médecins urgentistes. En septembre sera un nouveau mois où toutes les gardes de ce mur ne seront pas assurées. Il manquera des médecins pour 4 nuits et 2 jours. Fin de citation. Toujours sur cette même page, consacrée à l'hôpital de Lens, l'avenir de l'Artois donne la parole à Jean Létocard, que nous avons reçu il y a quelques mois dans les studios de Micro Rebelle. Je cite « La CGT, pas satisfaite des annonces faites. » Jean Létocard est infirmier urgentiste au SMUR de Lens et délégué CGT. Pour lui, les annonces nationales de la ministre Agnès Buzyn ne sont que de la poudre aux yeux. On ne promet pas plus d'argent, juste de prendre l'argent déjà sur la table et de le distribuer autrement. Ça ne peut pas être satisfaisant. Elle fait même pire, puisqu'elle annonce qu'il n'y aura pas d'embauche et que les infirmiers auront encore plus de travail. Dire que l'on va construire des maisons médicales, c'est bien, mais une maison sans médecin, c'est des murs et un toit. Dans La Voix du Nord et l'avenir de l'Artois, cette semaine, plusieurs articles ont été consacrés à la manifestation des Gilets jaunes à Lens, samedi 14 septembre. Les titres sont assez évocateurs. Le 10 septembre, dans la Voie du Nord, la manif de retour des Gilets jaunes interdite dans le centre-ville, samedi. Ça, c'était le 10 septembre. Le 11 septembre, toujours dans la Voie du Nord, les Gilets jaunes, en noir, attendent 4000 personnes dans les rues, samedi. Le 12 septembre, dans l'avenir de l'Artois, la manifestation des Gilets jaunes, finalement maintenue. Le 13 septembre, dans la Voie du Nord, Gilets jaunes, la manifestation à Lens, attend le feu vert des autorités. Tous ces articles de la presse locale, il faut bien le dire, ont eu tendance à agacer les Gilets jaunes qui ont souhaité s'expliquer sur les ondes de Micro-Rebelles. C'est donc toi, Luc, qui as reçu Sandrine et Frédéric.
Exactement, ils sont venus mercredi. Ils nous ont appelés avant, ils sont venus mercredi. Ils voulaient pouvoir s'exprimer justement sur le traitement médiatique qu'ils ont subi de la part de La Voix du Nord, mais aussi de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et donc, malgré une interview tardive, finalement sollicitée par La Voix du Nord, Sandrine et Frédéric ont été plutôt agacés par ce genre de titre. Manifestation interdite dans le centre-ville de Lens, samedi. Ils contestent en particulier les affirmations du journal et se justifient de propos qu'ils ont jugés mal interprétés. Ils critiquent aussi, comme beaucoup d'autres, des publications qui oscillent entre le copier-coller d'un communiqué préfectoral et l'accusation d'appel à la violence. On les écoute. Bonjour Frédéric, bonjour Sandrine. Vous faites tous les deux partie du mouvement des Gilets jaunes. Sandrine, toi t'es plutôt sur Lens, Frédéric toi plutôt sur Béthune. On est content de vous accueillir dans les studios de Micro-Rebelles. Ça nous permet aussi de rappeler que les médias ne traitent pas tous de la même manière le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est justement de ce traitement médiatique dont on a envie de parler aujourd'hui, et plus précisément d'un article qui a été publié récemment par La Voix du Nord et aussi par France 3 Nord-Pas-de-Calais au sujet d'une manif qui aurait été interdite à Lens, manif qui s'organise pour le samedi 14 juillet, alors que c'est pas tout à fait le cas. Alors l'article titre « Manifestation interdite ». Alors est-ce que c'était vrai à l'heure où ils ont écrit leur article ?
Non, c'était pas forcément vrai, dans la mesure où on nous avait dit cette journée-là au commissariat de Lens, avec le commissaire central, de refaire un papier avec les trois signatures des co-organisateurs de la manif et de transmettre à la sous-préfecture avec un parcours qu'on avait élaboré avec le sous-préfet, le commissaire central, le délégué de la mairie, le responsable des réseaux de Tadao, les renseignements territoriaux, quand on était allé à la sous-préfecture. Donc ce qui avait été en fait interdit par cette ARRT, c'est l'hypercentre de Lens, donc un périmètre bien spécifique, qui est totalement interdit à toute manifestation. Et la première déposition de manif que l'on a fait avait été interdite sur le parcours et sur l'amplitude horaire qui ne convenait pas. L'amplitude horaire trop grande avec une dislocation à 22h avec la nuit tombante, etc. Ils avaient peur que ça cause du trouble à l'ordre public. Et le parcours, on passait par le centre, le boulevard Basile. Donc forcément, là, c'était le centre. Et on était roulé et on allait jusqu'au Louvre. Donc ça, effectivement, celle-ci a été interdite directement le jour du rendez-vous à la sous-préfecture. Ils nous ont dit que ça sera interdit.
Donc la réalité, c'est plutôt que à l'heure où ils ont écrit l'article, les pourparlers étaient en cours pour la manière dont allait se dérouler la manifestation.
Non, parce que le vendredi, on avait renvoyé un mail à la sous-préfecture avec le parcours qui avait été décidé avec le sous-préfet au rendez-vous et les horaires qu'on nous avait recommandés. Donc c'était déjà plus d'actualité.
Un des arguments qui est cité dans l'article pour faire interdire la manifestation, il y a quelques citations qui ont été piochées d'une vidéo Facebook que tu as réalisée, Frédéric, et qui ont été assimilées à des appels à la violence, des appels à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Je cite « mettre la misère aux forces de l'ordre ». Voilà comment les quelques mots qui ont été extraits de cette vidéo et qui ont été mis dans l'article de La Voix du Nord. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que pour vous c'est biaisé ? Est-ce que c'est extrapolé ? Est-ce qu'ils ont sorti la citation de leur contexte ?
Alors non, ils ne sont pas sortis de leur contexte. Étant donné la vidéo, ils ont pu croire que justement il y allait avoir de la violence ou autre, en sachant qu'on avait eu un autre rendez-vous avec le commissaire et qu'on s'était expliqué au niveau de la vidéo en leur expliquant que vu le rendez-vous qu'on a eu avec le sous-préfet et vu comment ça s'était déroulé, on était très énervés. Donc oui, en effet, il y a eu une vidéo. En aucun cas on fait appel à la violence. On dit juste qu'on va jouer au chat et à la souris. Mais on s'est bien excusé par rapport à cette vidéo. On s'est excusé 3-4 fois.
Donc ça a été mal interprété en fait.
Eux, ils ont pris pour acte que comme dans la vidéo, on n'a pas dit clairement on veut pas de violence, on veut pas de casse, mais qu'on allait faire courir la police, leur faire peur, parce qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, dans une manifestation, notamment gilets jaunes, dès qu'ils voient quelqu'un en noir, ils en ont peur, même si c'est quelqu'un de le plus pacifique possible, ça leur plaît pas. Après, ça reste des hommes, attention, je critique pas les policiers. Mais ils en ont peur, et ils ont peur aussi des actes que certaines personnes font. Il y a dans toute manifestation, que ça soit nous les gilets jaunes, et depuis des décennies, il y a toujours de la casse, il y a toujours des gens qui s'y greffent et qui cassent. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors c'est vrai que les propos ont été maladroits, faire courir la police, leur faire peur. Bon, d'accord. J'ai fait de ce fait-là un correctif sur une deuxième vidéo. Parce que j'avais en plus des informations à donner concernant une association qui vient pendant que la manif va se dérouler pour la vente de sandwich, tout ça. Et je dis bien que, oui, effectivement, mes propos ont dépassé mes pensées.
Alors il y a quand même peut-être cette volonté de, en quelque sorte, tomber le gilet jaune, s'habiller en noir, c'est peut-être plutôt... histoire de pas faciliter la tâche aux forces de l'ordre, sachant qu'on les a rarement vus aussi brutaux que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Bah, c'est aussi, nous, comme on veut pas qu'il y ait de bagarre, qu'il y ait de casse, qu'il y ait de violence, c'est aussi dire et montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est habillé en noir que ça va tout casser de partout. C'est aussi une façon de réhabiliter. Moi, je suis en noir du 1er janvier au 31 décembre. Très rarement, j'ai de la couleur. Avec mes rangers, j'ai mes cheveux rasés. Alors, imaginez-vous les clichés que j'ai sur moi, quoi. Et ces clichés-là, à un moment donné, il faut les faire tomber. Et c'est ce qu'on voudrait faire avec cette manif en noir ou sombre.
Un autre argument qui est employé dans l'article, c'est de dire que vous n'avez pas d'expérience pour organiser une manifestation. Qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, j'ai organisé les nocturnes sur Béthune. Et là, c'était une nocturne pour le coup. Donc avec la nuit tombante, on n'a eu aucun débordement, on n'a eu aucune casse. Quand la première nocturne, on passe devant le commissariat, ceux de Béthune qui étaient identifiés, qui faisaient la sécurité, on s'est mis entre les policiers et le cortège pour que les gens puissent passer devant le commissariat et qu'il n'y ait pas du tout de problème. On est passé devant le bureau de la députée. À ce moment-là, un manifestant interpelle un policier en disant « Je peux coller un autocollant où il y a Auric sur la vitrine ?» Il lui dit non. Il essaie d'insister, on lui dit non. Tu lui as posé la question, il t'a dit non, avance, ça sert à rien. De toute façon, on va pas se battre là, c'est pas le but. Le but, il est de se montrer, de faire du bruit, de que les gens, ils savent qu'on est là encore présent.
Alors jusque-là, on a parlé... de ce qu'il y avait dans le premier article et de la manière dont vous contestez justement les affirmations qu'il y a eu et les citations qui ont été prises. Néanmoins, la Voix du Nord est revenue vers vous et a publié un deuxième article où ils ont eu en quelque sorte un revirement, où là c'est une véritable interview. Vous avez pu vous exprimer et pas des citations piochées à droite, à gauche. Comment on explique ce revirement d'après vous ?
Alors là, c'est la bonne question. On a eu... donc il fait l'article, paraît lundi après-midi, je crois. Mardi matin, nous avions rendez-vous avec les renseignements territoriaux, ce qui est obligatoire pour toute manif déclarée. Et en sortant des renseignements territoriaux, donc moi je me permets d'appeler Fréquence Horizon, qui avait aussi mis un article manifestation interdite. Cette dame, bien gentille, me prend le correctif et me dit qu'elle le passe à midi. Et d'un seul coup de téléphone, la personne de la Voix du Nord. On m'a demandé si on était encore sur Lens. Donc est-ce que de source interne, il avait appris qu'on allait aux renseignements territoriaux. Et puis de là, il nous a rejoint et on est allé boire un café. Il a on a fait l'interview qu'il aurait dû faire avant de diffuser son premier article, en fait.
Ce qui s'est, je sais pas, justifié.
Bon, on a donné des preuves. Hein. De toute façon, on avait les documents sur nous, précisant bien le chemin à prendre, les horaires et les mails qu'on avait reçus au niveau du sous-préfet. Donc,
Après, ce monsieur, il avait vu donc la deuxième vidéo juste avant de venir. Vidéo qui était parue au soir, au vu de tout ce qui avait été dit, etc. Et pour qu'il précisait aussi les nouveautés de la chose. Et il l'a regardé juste avant de venir. Donc il y avait peut-être aussi un autre regard par rapport à juste un communiqué qu'on lui avait balancé comme ça, sans chercher plus loin, quoi.
Alors c'est peut-être quand même symptomatique, justement, de la manière dont les médias traitent du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense particulièrement à deux points. Comme tu viens de le dire, c'est de relayer des communiqués de préfecture. Et puis la deuxième, c'est aussi plutôt de faire des articles qui sont négatifs, quoi, qui sont en train de pourrir un peu, en quelque sorte, une mobilisation sociale pourtant existante et qui porte des revendications.
Oui, non, mais après, c'est sûr et certain que la plupart des médias, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas comme ça, mais la plupart des médias minimisent l'impact des Gilets jaunes. Nous insulte, si je peux me permettre de le dire, d'alcoolique, de fainéant, de chômeur, de tous les maux de la terre. Alors que, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore chef d'entreprise. Et j'étais gilet jaune. On a des avocats qui sont gilets jaunes, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des ouvriers, on a des femmes au foyer, on a aussi des gens qui sont au chômage, on a des retraités, on a des personnes à mobilité réduite ou avec un handicap divers et varié. Et c'est pas que des chômeurs, des alcooliques qui sont sur les ronds-points. Quand il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a eu une émission où on entendait un journaliste ou un intervenant sur une émission. Grande émission d'information, donc il n'y en a que deux en France, je vous laisse le choix, qui disait, oui, à 9h, on est déjà à la bière sur le coin d'un rond-point. Nous, on n'a jamais eu un problème sur Béthune, on était au niveau de Décathlon, on a été au niveau de Winston Churchill. Quand on est arrivé à avenue Winston Churchill, on avait invité les policiers à, quand ils passaient, descendre, pour bien qu'ils constatent eux-mêmes qu'il n'y ait pas de souci, et qu'au cas où ils passent, on est embêté, leur indiquer le problème pour que ça soit réglé le plus vite possible. Et il n'y avait pas d'alcool sur le camp des Gilets jaunes de Béthune.
Chose que j'ai pu remarquer dans la plupart des ronds-points où j'ai pu me rendre. En général, l'alcool était interdit.
Oui, parce que c'est source de conflits.
Oui,
hein.
Bien sûr. Où en est, en cette rentrée de septembre, le mouvement des Gilets jaunes, enfin au moins localement, pour vous? C'est vrai que l'été, c'est pas toujours très propice aux mobilisations sociales, hein, que ce soit les mobilisations syndicales ou que ce soit les mobilisations populaires. Donc là, comment ça se réorganise en ce début septembre?
Ça se réorganise relativement bien au niveau local. La semaine dernière, il y avait une manifestation à Lille. Cette semaine, il y a nous et il y a Lille qui veut faire un autre truc, il y a Aulnoy-Aymeri. La semaine prochaine, il y a Douai qui fait aussi une manifestation, là, pour la convergence. Donc ça se remet en place relativement bien. Et quand je vois un article, 650 personnes à Lille, samedi, j'y étais, on était au minimum 1500. Donc après, bon, on va pas revenir sur l'histoire des comptages, c'est un autre débat. Mais les gens, ils ont eu besoin aussi de repos, de passer du temps en famille. On est tous des pères, des mères, des enfants et des parents d'eux, et il faut aussi qu'on passe du temps avec eux. Et pendant l'année, on était tous les week-ends sur le pont, on faisait des actions de blocage pendant la semaine, des nocturnes le vendredi. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi se couper.
Et Sandrine, sur Lens, est-ce que ça... C'est vrai qu'ici, il y a eu le rond-point des Leux.
Oui.
Qui a beaucoup été occupé pendant même une bonne partie de l'année 2019 et la fin de l'année 2018. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans le bassin minier lensois?
Donc là, j'ai rendez-vous jeudi justement avec le maire pour moi-même reprendre le rond-point avec deux autres personnes. On va remettre aussi en place énormément de manifestations sur Lens. Et on va faire en sorte qu'il y a pas mal de choses qui bougent au niveau de Lens.
Dernier point, les...
Et ça serait bien qu'eux, ils le fassent aussi, si tant est, savent ce que c'est que TRAP.
Merci à Sandrine, merci à Frédéric d'être venus dans les studios. On se recroisera très prochainement, ici ou ailleurs, sur un rond-point ou dans les rues. C'était donc Sandrine et Frédéric de Gilets jaunes à qui on a voulu donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur le ressentiment qu'ils ont eu vis-à-vis des articles qu'avait publié La Voix du Nord. Entretien qui est tout de même éclairant sur les rapports entre les institutions, les services de police, la préfecture et les publications locales, les journaux régionaux. On se demande comment ils peuvent savoir à l'avance où sont les personnes ou ce qu'ils doivent dire. Je vais maintenant terminer et compléter cette revue de presse. C'est vrai que d'habitude, j'y participe pas énormément, mais là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a particulièrement attiré. Alors, c'est un article paru dans Le Monde Diplomatique de septembre 2019 qui s'intitule « Colère à Hong Kong, poudrière géopolitique ». Et alors, ce qui m'a plu, c'est l'introduction, le tout début de l'article, où en fait, ça ne parle pas réellement de la contestation à Hong Kong. Si ça vous intéresse, je vous invite à relire cet article, comme toujours dans Le Monde, très très, très, très intéressant, très très fouillé et fourni. Et donc, le début de l'article parle justement des Gilets jaunes. « Que les manifestations sont magnifiques quand elles se déroulent sous d'autres cieux. » Les porteurs de pancartes, surtout s'ils sont chinois ou russes, sont alors démocrates, pacifistes et responsables, aux antipodes des hordes de gilets jaunes, violents, obtus, voire fascistes. Ainsi, l'attaque du conseil législatif, le LECCO, le parlement de Hong Kong, portes pulvérisées, bureaux détruits par quelques centaines de manifestants, le 1er juillet 2019, devient-elle l'opération la plus audacieuse, selon Le Point du 3 juillet 2019, tandis que des tags sur l'Arc de Triomphe et les vitrines brisées en sous-sol à Paris, le 1er décembre 2018, témoignaient de la fureur des casseurs. L'ingression d'un journaliste chinois du Global Times, l'une des voix officielles de Pékin, molesté, ligoté et transbahuté sur un chariot à travers les halls de l'aéroport de Hong Kong, n'est qu'un incident, selon Le Monde du 14 août. Rien à voir avec les journalistes pris à partie verbalement par des gilets jaunes adeptes, eux, du lynchage. C'est là-dessus que je m'arrête et je vous laisse lire l'article si vraiment la contestation Hong Kong vous intéresse.
Effectivement, un article tout à fait éclairant sur la différence de traitement que l'on soit à Hong Kong ou dans le bassin minier. Alors, pause musicale, on a choisi une pause musicale un peu particulière puisqu'on va vous faire écouter un morceau dit non à ce destin, un morceau qui est extrait d'un album Les Échos de l'âme, complètement réalisé, complètement mis en œuvre par deux habitants du bassin minier. Alors les textes sont de Grégory Picard, qui est grenésien, et les chants, les compositions, les arrangements sont de Pascal Boquet, qui lui est bulligeois. Donc on a souhaité donner la parole en quelque sorte, hein, le micro, la primeur de cette diffusion, à deux artistes locaux. Tous les deux forment le groupe Orphée. Hein, vous pourrez retrouver toute leur production sur leur page Bandcamp, orphée.bandcamp.com. Donc, dis non à ce destin.
Du jour. C'est... celle d'un matin où les sourires se confondent et les espoirs parlent la même langue. Dis non, dis non, dis non, dis non à ce
à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. Pour terminer cette émission, on va s'intéresser à un sujet récurrent sur nos ondes, la solidarité avec les personnes exilées, les personnes migrantes. Il y a très peu de temps, une brochure a été publiée par un collectif qui s'appelle Délacan Solidaire, collectif qui regroupe une soixantaine d'organisations, de collectifs qui sont engagés à différents niveaux avec les personnes exilées. Ça s'appelle Délit de solidarité, le guide, et ça s'adresse aux personnes qui se mobilisent en solidarité avec les exilés, les sans-papiers, les migrants, les migrantes en France. C'est un guide pratique qui répond à de nombreuses questions. Par exemple, ai-je le droit d'apporter de l'aide à des personnes sans papier en dehors d'un lieu privé? Voilà, c'est très précis. Est-ce que je peux prendre à bord de mon véhicule des personnes sans papier? Qu'est-ce que je risque si j'observe l'action des forces de l'ordre? Qu'est-ce que je risque si je filme ou photographie des agents de police? Est-ce que je peux m'opposer à une expulsion dans un avion, un bateau ou un train? Il y a à chaque fois, dans chaque fiche, une question et des réponses pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas. C'est très instructif en ces temps où le durcissement des lois sur l'asile et l'immigration rend la solidarité et justement la migration de plus en plus difficile. Sur le même sujet, en juin 2019, oui, Lucien.
Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir cette brochure?
Est-ce qu'il y a un site internet? Où est-ce qu'on la trouve? Alors nous, on en a quelques exemplaires à Micro Rebelle, donc quelqu'un peut venir, si vous voulez venir en chercher, vous pouvez. Et puis sinon, il y a effectivement www.delinquant-solidaire-également.org. Tu fais bien de le rappeler. Donc, plus ou moins sur la même thématique, en juin 2019, Amnesty International a sorti un rapport sur le harcèlement des personnes défendant le droit des migrants et des migrantes à Calais par les autorités, la police et la justice. On propose donc quelques minutes d'un entretien avec Katia Roux, qui est chargée de plaidoyer à Amnesty International France et qui est co-rédactrice de ce rapport. C'est un entretien réalisé par Elsa.
Amnesty International a sorti en juin 2019 un rapport intitulé « La solidarité prise pour cible, criminalisation et harcèlement des personnes qui défendent les droits des migrants-migrantes et des réfugiés dans le nord de la France ». Entretien avec Katia Roux, l'une des rédactrices du rapport.
Je m'appelle Katia Roux, je suis chargée de plaidoyer à Amnesty International France, qui est une organisation de défense des droits humains et qui travaille sur plusieurs volets. Ça va des libertés individuelles ou collectives, à la protection des populations civiles, aux responsabilités des États et des entreprises, et donc qui travaille à la défense de ces droits humains partout dans le monde, y compris en France, en alertant, sensibilisant, mobilisant et en interpellant les autorités.
Alors tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce rapport? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est-il fait, avec qui, en combien de temps? En gros, quel a été le point de départ et l'évolution?
Alors le point de départ de ce rapport, de manière assez générale, c'était de pouvoir s'intéresser à la question des défenseurs des droits humains. Par défenseurs des droits humains, on entend des personnes, individus ou des associations qui sont engagées pour la défense et la promotion des droits humains de manière pacifique. Ça peut être au niveau local, au niveau national, au niveau international, et ça peut être des profils très variés, des militants associatifs bien sûr, mais aussi des journalistes, des syndicalistes, des avocats, des familles de victimes qui demandent réparation. Et si on s'intéresse à la question des défenseurs des droits humains, c'est bien parce que partout dans le monde, pour le coup, ces personnes, ces organisations sont devenues des cibles d'attaque très ciblées de la part des gouvernements, des entreprises, de différents acteurs, précisément parce qu'elles dénoncent les violations des droits humains et se mobilisent, sensibilisent sur ces aspects. Et donc le point de départ de ce rapport a été de se concentrer sur la situation en France. Nous avons commencé à mener des recherches dans la région de Calais, de ses environs, donc Calais et Grande-Synthe, dans le nord de la France, parce que précisément, nous avions eu vent de plusieurs informations des associations locales qui étaient entravées dans leur action par les autorités, la police et la justice.
Si vous le permettez, et votre rayon?
Et alors?
Un rayon?
Bon quoi?
Vous en avez pas?
Non, j'en ai pas.
Pourquoi? C'est pas la loi?
C'est comme ça. Cassez-vous. Allez, cassez-vous là maintenant. Cassez-vous là maintenant là. Dégagez là maintenant.
Pourquoi?
Parce que c'est l'ordre
pourquoi
de la loi,
vous avez
c'est la police.
Poussé par terre.
Et donc la manière dont s'est construit ce rapport, eh bien tout simplement nous nous sommes rendus sur place à plusieurs reprises, l'été dernier, en juillet-août 2018 et en janvier 2019, pour rencontrer les associations locales, pour rencontrer donc ces défenseurs des droits humains, ces bénévoles, ce personnel associatif, mais aussi pour rencontrer les personnes migrantes et réfugiées, puisqu'effectivement, le sort des défenseurs et le sort des personnes migrantes et réfugiées sont extrêmement liés.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les moyens de criminalisation et de harcèlement utilisés envers ces personnes aidantes? Par qui, en fait?
Alors, On a dénombré, ou en tout cas, on a répertorié dans le cadre de cette recherche plusieurs types d'attaques ou de harcèlement de la part des autorités, donc essentiellement les forces de l'ordre, mais aussi on va voir les institutions judiciaires, puisque le premier type en fait de harcèlement qu'on a pu répertorier, ce sont les campagnes de dénigrement. C'est-à-dire des déclarations publiques qui stigmatisent les défenseurs des droits des personnes migrantes et réfugiées, qui vont par exemple être accusés de créer un appel d'air ou encore être accusés d'être complices de favoriser les violences et la criminalité. Et donc ce discours dénigrant va créer un environnement hostile, extrêmement défavorable à l'action des aidants, des humanitaires, et va même pouvoir, à certains moments, cliver la population locale et créer, encore une fois, un environnement de travail extrêmement hostile. Donc ça, c'est le premier type d'attaque, et on a pu le voir à l'occasion de déplacements, on va dire, de différentes personnalités, que ce soit l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ou des déclarations de la maire de Calais, Natacha Bouchard. Donc effectivement, ces déclarations de personnalités publiques.
Alors nous n'aurons malheureusement pas le temps d'écouter l'entièreté de cet entretien avec Katia Roux, chargée de plaidoyer pour Amnesty International au sujet de ce rapport sur le harcèlement des personnes défendant le droit des migrants et des migrantes. Voilà, ce micro-rebelle se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission en public, même si la plupart de nos émissions sont ouvertes. On se quitte en musique, bien sûr. À la semaine prochaine. Thank you.